Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je reçois aujourd'hui Pierre Polo, directeur de la maîtrise d'ouvrage Groupe I3F. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons eu une première interview extrêmement intéressante d'ailleurs sur la ville, le faire la ville, les opérations NPRU. Quel est le rôle d'un bailleur comme le groupe I3F justement dans l'insertion urbaine et toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui? La deuxième partie de cette interview, c'est plutôt sur la qualité architecturale. Et comment, au cours de ces 20 dernières années, on a pu voir fleurir sur les opérations sur lesquelles le groupe I3F s'est impliqué, un éventail d'esthétique architecturale et de qualité architecturale assez variée, avec surtout une insertion dans la ville et sur les fonciers très différentes, puisque vous êtes parti, on va dire, jusqu'à il y a 20 ans sur vos propres fonciers, et aujourd'hui, c'est des grandes opérations.
Oui, absolument. Donc, le moteur, c'est la production, hein, puisque l'État, notre actionnaire Action Logement, nous demande de produire un certain nombre de logements par an, parce qu'on est sur un train qui est quand même très élevé. On produit de 4 000 à 4 500 agréments par an. Donc ça nous oblige aussi à nous réinterroger sur nos manières d'intervenir, et on intervient non seulement sur nos fonciers aujourd'hui, on requalifie, nos emprises sur lesquelles on a un certain nombre de bâtiments qui sont obsolètes et qu'on va soit rénover, soit démolir et reconstruire. Mais on intervient également sur les grands projets, les IMGP.
Voilà, c'est récent, parce que jusqu'à il y a 5-6 ans, on va dire, bon, évidemment, il n'y avait pas d'IMGP, mais il y avait surtout cette volonté de travailler sur ses propres fonciers, donc de ne pas spécialement aller au développement, ou très peu.
En tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis depuis 15 ans chez 3F. Dans les années 2005, on devait produire 1500 logements par an sur toute la France.
Aujourd'hui,
on est à 10 000 sur toute la France.
Ouais.
Et la moitié en Île-de-France.
On n'a pas parlé de la province.
Voilà, absolument. Donc on est sur un rythme qui est beaucoup plus élevé, ce qui nous conduit aussi à rechercher du foncier. Et comme nos partenaires promoteurs, le foncier n'est pas forcément rare, mais le foncier à aménager est rare. Le foncier, je pense qu'il y en a, mais le foncier à aménager, il y en a peu. Et donc la difficulté, c'est de trouver du foncier à la fois dans le diffus, donc on va à travers des DIA réaliser une opération de 15 logements. Aujourd'hui, on n'est plus dans la quantité de logements produits par opération, on est dans la quantité totale sur plein de petites opérations.
Bien sûr.
Notre moyenne d'opération, c'est 35 logements par opération. C'est
alors qu'avant, vous ne regardiez pas en dessous de 100. C'était impossible.
Alors que dans les années... Ouais. Je ne parle pas des années 50, où on parlait en milliers, mais... il n'y a pas si longtemps, on était plutôt sur un train de 50 logements moyens.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, on a vraiment diminué
Est-ce que le micro-projet est celui qui, quelque part, en zone dense, avec des élus qui, peu ou prou, ont été élus aux dernières élections pour ne pas construire, c'est quelque chose qui passe mieux?
Oui, certainement. Et c'est pas... Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise réponse. Elle est plus coûteuse, plus compliquée pour nous. Mais c'est vrai que 20 logements vont bien s'insérer dans un quartier.
Bien sûr, dans un tissu pavillonnaire ou petit collectif.
Ne créeront moins de tensions, évidemment, sociales. Il y aura moins de frottements sociaux, si je puis dire. Alors que sans logement, s'il y a 2-3 familles qui créent des tensions, on peut avoir des difficultés ensuite de gestion qui renvoient aux difficultés que peut rencontrer le maire dans sa ville au quotidien. Donc, je crois qu'effectivement, il faut savoir répondre, je pense, à toutes les échelles. Toutes les demandes sur les territoires ne sont pas les mêmes. Il y a des secteurs sous tension, la première couronne parisienne, mais la deuxième couronne commence à être un peu plus tension. Et puis, il y a la troisième, je dirais, couronne parisienne, qui est à la frontière des régions périphériques, sur lesquelles les attentes ne sont pas forcément les mêmes. C'est plus des attentes de renouvellement que des attentes de production importantes.
Alors, la qualité architecturale est au cœur de cette problématique. Comment fait-on aujourd'hui pour, dans le dialogue avec les élus, dans le dialogue avec les architectes, évidemment, et puis avec une économie qui doit être la vôtre, garder cette qualité architecturale au centre, hein?
Voilà, qualité architecturale est vraiment au cœur de nos préoccupations. Qualité architecturale, c'est un mot qui recouvre plein de sujets.
Pas que l'esthétique.
Et pas que l'esthétique, mais l'esthétique a une importance forte, notamment pour les collectivités qui attendent une certaine esthétique, quelquefois une esthétique très contemporaine. Et à contrario, il peut y avoir des élus qui sont plutôt sur des écritures plus traditionnelles, voire quelquefois un petit peu pastichantes. Il faut composer avec les envies aussi des élus. Le maire, je dirais, tient le permis de construire, et donc on ne construit pas contre le maire, on construit toujours avec le maire, avec le pouvoir de conviction qu'on a les uns et les autres pour essayer de se convaincre d'aller dans telle ou telle direction. Nous, le cœur de notre métier, c'est la qualité d'usage de nos logements.
Bien sûr.
On souhaite avoir des logements qui sont qualitatifs, qui vivent bien, qui sont bien isolés, qui sont vertueux sur le plan environnemental. Aujourd'hui, l'économie
On en parlera surtout sur les problématiques de standardisation, parce que je voulais vraiment là-dessus vous interroger. Mais sur la qualité architecturale et le retour sur expérience, on sait que dans les années 80, 90, 2000, on a fait ce qu'on appelait à l'époque les palulos, c'est-à-dire avec beaucoup d'isolation par l'extérieur, que c'était des cocottes minutes. Et on a un retour aujourd'hui, en tout cas on a un recul sur ces opérations, c'est monstrueux. Donc comment fait-on, quand je dis monstrueux, c'est-à-dire d'inesthétique quelque part, mais peut-être pas d'ailleurs de réponse aux problématiques environnementales. Donc ça veut dire que parfois on se trompe. Donc comment fait-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un savoir et des convictions qui font qu'on arrive à faire ce grand écart entre l'économie, l'énergie et l'esthétique ?
Oui, ben c'est effectivement ce à quoi on est confronté. C'est-à-dire que quand l'époque des palulos, je reviendrai sur le mot monstrueux, je pense que c'est pas monstrueux.
Oui, je suis désolée.
C'était sur le plan esthétique, certes, c'était pas exceptionnel,
voilà, c'était ça.
Mais ça répondait à une demande, effectivement, suite aux différents chocs pétroliers, à ces bâtiments qui n'étaient pas isolés, de les isoler par l'extérieur était le système le plus simple pour répondre effectivement à ces exigences.
En milieu occupé, donc de toute façon,
il faut composer. Après, on a sans doute
On
a sans doute un peu trop industriel. Et donc il faut être vigilant à chaque fois, bien contextualiser chaque projet, je dirais, architectural, qu'il soit en neuf ou en réhabilitation, faut le contextualiser. C'est-à-dire que la ville se compose effectivement de bâtiments divers et on recherche à faire ville. Donc au-delà de l'esthétique, être très vigilant à traiter chacun des bâtiments en fonction effectivement de son contexte géographique,
ça veut dire plus d'identité.
Plus d'identité, je pense, effectivement. Faire attention, je dirais, à la monotonie, souvent, qui est ressentie dans ces grands ensembles. Donc, il faut effectivement retrouver une écriture, un traitement, à la fois, je dirais, du bâtiment, de son enveloppe, mais également des parties communes, des espaces extérieurs qui sont extrêmement importants.
Alors justement, les espaces extérieurs, pendant longtemps, on avait les deux bars ou les trois bars sur une plaine avec une pelouse rase et trois arbres qui se battaient en duel. Vous travaillez beaucoup sur justement le paysagement, le travail sur les espaces extérieurs et l'appropriation par les habitants de ces espaces.
Oui, absolument. Ça, c'est vraiment un sujet qui, depuis une quinzaine d'années, notamment avec les opérations de renouvellement urbain, est devenu un sujet très, très, très prégnant et qui s'est accentué avec la prise en compte de l'importance de la biodiversité sur ces territoires et sur ces grands ensembles. Donc on travaille beaucoup les espaces extérieurs, aussi bien sur la recomposition, d'un patrimoine végétal de qualité, sur l'adressage, sur les parcours pour accéder aux immeubles, également sur des jardins partagés qu'on met en place pour recréer du lien social.
Mais avec des associations.
Avec des associations locales. Donc c'est un sujet avec aussi la non-imperméabilisation des sols qui devient de plus en plus prégnante avec la loi ZAN sur la non-artificialisation. Donc c'est des sujets qui
sont au cœur
de vos préoccupations.
Et qui font partie aussi de la qualité architecturale.
Absolument.
Alors, vous êtes sur des grandes opérations, IMGP, des grands concours, etc. Comment fait-on quand on est bailleur pour justement tirer en avant cette qualité architecturale? Est-ce que vous avez quelque part un poids supplémentaire?
Alors, on a un poids à travers nos propres exigences qui sont définies dans la cahier des charges, qui est quand même très explicite sur ce qu'on attend en termes de qualité, aussi bien sur la qualité d'usage, la qualité technique, la qualité d'implantation, même éventuellement, mais la qualité, elle est aussi à travers les réglementations urbaines qui nous sont imposées par les différentes collectivités. Donc, la qualité... C'est à la fois, je dirais, comment l'immeuble est perçu depuis l'extérieur, puisque les habitants ont besoin de se sentir reconnus à travers le bâtiment dans lequel ils habitent. Souvent, je cite par exemple les HBM. Les HBM, qui ont été des bâtiments assez bien construits dans l'entre-deux-guerres, notamment, et un petit
très intégrés, qui font sens.
Très intégrés, qui font sens, parce qu'ils font sens urbain.
Bien sûr.
Parce que la qualité des matériaux est en rendez-vous. Pourtant, les logements sont souvent assez petits, pas forcément très bien éclairés. Et pour autant, c'est des immeubles qu'on démolit pas, mais qu'on réhabilite. Alors qu'à côté de ça, des immeubles bars et tours des années 60-70 sont amenés à être démolis parce qu'elles ne font plus sens au niveau urbain et les gens ne se reconnaissent pas à travers cette architecture. Donc à la fois, il y a la vision qu'on a de son immeuble, j'irais depuis l'extérieur, les parcours, on parlait avant des espaces végétaux à l'extérieur, mais il y a aussi après, effectivement, l'usage, la qualité d'usage dans le logement, comment on y habite... Les logements traversants, par exemple, qui pour nous est un élément essentiel de la qualité d'usage d'un bâtiment. Logement traversant, logement biorienté, des vraies cuisines avec un vrai coin cuisine, pas la cuisine en fond de séjour comme on voit trop souvent quelquefois, malheureusement dans nos VFA, effectivement,
hein, voilà.
Où on a effectivement pas toujours la qualité attendue, ou effectivement quand un promoteur nous vend des logements dans une opération, il est sur une morphologie d'immeuble qui est sur 15 mètres d'épaisseur, là où en maîtrise d'ouvrage, c'est là où on est très attaché à la maîtrise d'ouvrage chez 3F, avoir des bâtiments moins épais pour pouvoir avoir une distribution avec moins de logements au palier, mais également des logements bien aérés et avec le confort d'été qui devient essentiel. C'est extrêmement important d'avoir des logements traversants.
Alors, un point juste pour finir, qui est la standardisation. Si on peut en parler deux minutes, une minute. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va commencer à réfléchir un peu tardivement, mais quand même, à ce qui est construction hors site, à travail de standardisation. Comment fait-on pour garder la standardisation, l'esthétique et oublier quelque part la monotonie?
Alors, pour répondre à votre question, il est important de rappeler que finalement, le bâtiment n'a jamais fait sa révolution industrielle.
Bien sûr.
On construit aujourd'hui comme on construisait il y a 40, 50 ans. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Les chantiers sont à peu près tenus de la même façon. Donc aujourd'hui, on a un casque sur la tête sur les chantiers. C'est peut-être la grosse différence. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, effectivement, de comment construire mieux, moins cher aussi, parce qu'il y a une inflation des prix qui est importante, avoir moins de réserves aux livraisons. Hein, vous êtes architecte, c'est l'époque des réserves est une époque très difficile à vivre, à la fois pour les architectes, mais également pour les maîtres d'ouvrage. Et donc la standardisation à travers la construction hors site, qui est un sujet qui est très prégnant et qui me tient à cœur particulièrement, c'est de pouvoir travailler, je dirais, sur une partie des composants du bâtiment en atelier pour les amener sur site.
Et de garder l'enveloppe.
Mais pour autant, de répondre non pas à une standardisation, une répétition comme on a pu le faire dans l'après-guerre, mais c'est trouver à chaque fois, en fonction des contextes, une adaptation à ces modes de préfabrication qui sont divers. C'est-à-dire qu'on a de la préfabrication qui peut être en béton, qui peut être en bois, qui peut être en métal, qui peut être dans tous les systèmes, qui peuvent être en 2D ou en 3D. Voilà, donc il y a un grand champ qui s'ouvre aujourd'hui sur, effectivement, la construction.
Bon, écoutez, vous êtes optimiste et nous le serons, avec vraiment le champ des possibles extrêmement intéressant sur le fait de mélanger hors-site, standardisation, esthétique, pour le mieux vivre ensemble. Merci Pierre Polo.
Merci.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir